Mesdames et messieurs, bonsoir. Que retenir du discours du chef de l'État prononcé jeudi dernier à la 62e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies? Et que peut-on attendre comme changement tant sur le plan politique que sécuritaire après ce discours du chef de l'État? Dialogue entre Congolais de ce soir s'y penche. Au cours de son discours, le chef de l'État congolais a évoqué notamment les négociations avec le général déchu Laurent Nkunda, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que la question du réchauffement climatique, étant donné que les forêts de la RDC jouent un rôle très important dans la régulation du climat à travers le monde. Nous avons ce soir 4 invités pour en parler. Le professeur Jacques Joly, sénateur MLC, vice-président de la commission Défense et Sécurité du Sénat. Honorable Jean-Charles Okoto, deuxième vice-président de la commission Relations Extérieures de l'Assemblée nationale, qui participera à la première partie de cette émission. Chadari Ramazani, député national AMP, secrétaire national chargé des questions électorales au sein du PPRD, le parti présidentiel, qui participera à la deuxième partie de cette émission. Et Jean-Pierre Mbouébois, professeur de sciences politiques aux facultés catholiques de Kinshasa. Vous êtes nombreux à avoir déjà réagi. Robert de Calémy au Katanga veut savoir pourquoi le président de la République a dit lors de sa conférence de presse à Kinshasa qu'il allait utiliser le bâton, et à l'ONU, il dit qu'il va régler politiquement avec Nkunda. N'est-ce pas là une confusion? Moïse Yenga de Kisangani dans la province orientale apprécie le discours du chef de l'État et attend maintenant son pragmatisme. Enfin, Fiston Tampachi de Kananga dans le Kasaï occidental trouve que le discours du président Kabila ne changera absolument rien parce que ce n'est pas le premier.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Dans son discours à la tribune de Nations Unies, concernant la situation sécuritaire au Nord Kivu, le chef de l'État congolais privilégie l'option politique et diplomatique pour résoudre les problèmes d'insécurité. Joseph Kabila sollicite également l'appui des Nations Unies pour le désarmement et le rapatriement des forces étrangères. Les propos du chef de l'État ont été recueillis par nos confrères de la télévision digitale au Congo qui nous ont cédé ce son.
Tout en privilégiant l'approche politique et diplomatique, nous devons par tous les moyens, avec détermination et un sens élevé de l'urgence, résoudre le problème résiduel d'insécurité au Nord Kivu. Parce que rien ne peut raisonnablement justifier que des populations congolaises continuent à faire quotidiennement l'objet de violences et exactions de tout genre de la part des groupes armés nationaux et étrangers, et qu'elles soient massivement réduites à être des déplacés de guerre. La paix et la sécurité doivent rapidement et à tout prix être rétablies dans cette partie de notre territoire. Elles le seront. Quant aux groupes armés étrangers, l'appui des Nations Unies est nécessaire pour leur désarmement volontaire ou au besoin forcé, leur rapatriement et leur réinstallation.
Voilà, nous rentrons dans ce studio. D'abord, vous, professeur Jacques Joly, quelle réaction par rapport à ce point évoqué par le président de la République concernant l'insécurité à l'est du pays?
Merci beaucoup. Je crois d'abord que le discours du chef de l'État, ce n'est pas en 5 minutes, puisque le discours total n'est pas allé au-delà des 10 minutes. Et je ne crois pas qu'on puisse dire quelque chose d'important. C'est un discours que moi je trouve, je ne veux pas dire fade, mais un discours de compétence générale. Ce sont un ensemble d'idées qui ont toujours été rechassées. Et comme a dit un des auditeurs, nous attendons voir sur le terrain. Le problème de l'Est est un problème récurrent. Le chef de l'État dit que c'est un problème résiduaire, mais il faut le résoudre. Et il faut le résoudre de manière méthodique. Parce que dans ces dossiers, il y a trop d'ambiguïté. Tantôt, comme l'a souligné l'auditeur, on y va par des négociations parfois dont on ne connaît pas les contours, on arrive au mixage, Après, on laisse les mixages pour dire que tout le monde au passage. Tantôt, il y a des envois de troupes, et puis après, il y a une négociation. Je crois qu'il faut arriver de manière transparente, de manière participative, de manière consensuelle, dégager un schéma directeur pour résoudre cette crise.
Et que pensez-vous de la réaction de Robert de Calémy dans le Katanga, qui veut savoir pourquoi le président a dit lors de sa conférence de presse du 13 décembre dernier à Kinshasa qu'il allait utiliser le bâton, et à la tribune de la 62e Assemblée générale des Nations Unies, il dit qu'il allait régler ce problème à Bankunda sous le temps en favorisant d'abord l'approche diplomatique et politique.
Bon, je crois que nous sommes sur deux tribunes. Une tribune interne, un discours de consommation intérieure, et un discours sous la tribune internationale de consommation extérieure. Est-ce que c'est un double langage? Est-ce que c'est un discours diplomatique? Tous ces messages plus ou moins ambigus, comme je vous ai dit, contradictoires, c'est ça qui pose un certain nombre de problèmes. Ça fait plus de depuis que nous avons commencé la transition. Kunda est tantôt traité des criminels de guerre à qui on lance des mandats d'arrêt international. Parfois, il redevient un général fréquentable avec qui on signe des accords à Kigali. Et puis après, tantôt, c'est un militaire de FARDC qui aurait refusé, n'est-ce pas, de réserver les centres de massage. Bon, la question n'est pas simple, il faut l'avouer. Elle est complexe. Mais ne la complexifions pas davantage par des approches plus ou moins approximatives. Nous savons tous qui est Kunda, qui est derrière Kunda, comment il opère. Donc, il faudra, de manière claire, de manière responsable, de manière globale, nous puissions arrêter une approche pour résoudre cette question, et non pas des discours, parfois, comme j'ai dit à Bubi, un discours à consommation intérieure. On devrait utiliser la force, mais on en a vraiment le moyen. Et un discours de consommation extérieure où on essaie de surfer sur le monde.
Je me tourne maintenant vers vous, monsieur Jean-Charles Okoto. Je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président de la Commission des relations extérieures à l'Assemblée nationale. Vous êtes à la fois du PPRD et de l'AMP. Qu'est-ce que vous répondez à Robert de Calémy au Katanga, qui se demande si ce n'est pas un double langage, si ce n'est pas là une confusion?
Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais m'acquitter de cet agréable devoir de vous remercier du fait de m'avoir donné cette opportunité d'exprimer une opinion qui est certes mienne, mais qui est donc, j'estime, largement partagée par mes pairs. Cela étant, pour revenir à votre préoccupation, je crois que c'est peut-être le monsieur qui n'avait pas bien suivi le chef de l'État. Je rappelle à notre auditeur que la politique, c'est une dynamique. Aujourd'hui, je peux tenir un discours, et quand les choses évoluent, je dois évoluer ensemble avec la politique. La politique n'est pas statique. C'est pas moi de lui apprendre ça. Et des deux, je crois que le chef de l'État est constant dans tout ce qu'il dit. Quand vous prenez la conférence de presse que le chef de l'État avait donnée avant d'aller à la tribune des Nations Unies, et quand vous observez le discours clé du chef de l'État à la tribune des Nations Unies, je ne vois pas la contradiction qu'il y a là-dessus.
Parce que le 13 septembre, le président de la République avait déclaré à Kinshasa que toutes les carottes étaient épuisées et qu'il fallait à tout prix utiliser le bâton contre Laurent Kunda. Mais à la tribune des Nations Unies, le président de la République a déclaré qu'il favorisait d'abord une approche politique et diplomatique.
Je peux vous rappeler un passage de ce discours.
Je vous en prie.
Je crois que le chef de l'État, quand on va à la tribune des Nations Unies, à l'époque je suis ministre des Affaires étrangères, je crois que j'ai été délégué par un président de la République pour pouvoir le représenter. Là, nous avons d'abord au niveau national, quand le chef de l'État tient un point de presse, je crois qu'il sait à qui il s'adresse. Et quand le chef de l'État arrive à la tribune des Nations Unies, ça c'est notre auditoire. Et je crois que là, vous avez suivi le chef de l'État, je peux rappeler à notre auditeur, et le chef de l'État avait dit ceci. Bien plus. Tout en privilégiant l'approche politique et diplomatique, nous devons par tous les moyens, avec détermination et avec un sens élevé de l'urgence, résoudre le problème résiduel d'insécurité au Nord Kivu. Et le chef a bien ajouté, vous-même vous l'avez dit dans votre introduction, que le rapatriement doit être volontaire ou forcé. Je crois que c'est un langage diplomatique. Je crois que pour un bon entendeur, un homme qui a une lecture politique, il devait plutôt se poser la question comment est-ce que les choses vont se faire d'une façon forcée. Parce qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas taxer le chef de l'État, parce que le problème de Norkim, comme celui qui m'a précédé l'a bien dit, et j'étais très content parce qu'il a dit qu'il connaissait bien Kunda et qu'il connaît aussi qui est derrière Kunda. Voilà la complexité de l'affaire qui se trouve au sein de notre pays.
Est-ce que vous pensez que le président de la République a évolué dans son discours par rapport à tout ce qu'on a entendu et à Kinshasa et à Goma, ensuite à la tribune des Nations Unies?
Pour un rappel bref de fait, je crois que vous avez bien remarqué que le chef de l'État, avant d'aller à la tribune des Nations Unies, il est passé d'abord par Goma. Ok? Il était à Goma, il a réuni presque son staff militaire et technique, et c'est par après qu'il a pris le périple de Nations Unies. Et à ce titre-là, je crois que le chef de l'État, vous avez bien suivi, que cette fois-ci, comme il s'est adressé à la Nations Unies pour le maintien de la paix, parce qu'aujourd'hui, aucun président de la République ne peut accepter la violation de l'intégrité territoriale de son pays. Et je l'ai toujours dit, la position politique, géographique et stratégique qu'occupe notre pays n'est pas facile à gérer. Nous avons au moins 9 frontières. Aucun pays au monde a autant de frontières comme nous. D'où il faut beaucoup de tact. Moi, je ne suis pas militaire, mais je me dis, le chef de l'État a voulu épuiser aujourd'hui la voie diplomatique. Je dois vous l'avouer, la guerre diplomatique est plus efficace que la guerre des armes. Moi-même, j'en suis conscient.
Merci beaucoup. Nous avons également dans ce studio le professeur Jean-Pierre Mbouéba. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques aux facultés catholiques de Kinshasa. Vous venez de suivre le professeur Jacques Ndjoli et l'honorable Jean-Charles Okoto. Qu'est-ce que vous retirez de ce que vient de dire? Vous êtes d'accord avec l'un ou l'autre ou vous trouvez autre chose à dire?
Personnellement, je ne vois pas qu'il y a des contradictions fondamentales dans ce qu'il vient de dire. Hein. Donc, c'est chacun qui présente un peu la lecture des faits sous son angle et selon aussi les informations que l'un et l'autre a à sa position. Et personnellement, je crois que on tire de cette conférence de presse un mot et on reste sur ces mots, on spécule. Je crois avoir aussi entendu dans cette conférence de presse que le président a utilisé aussi le terme de persuasion. Il a aussi dit que on allait continuer à persuader. Hein? Je crois que ça aussi, on n'en parle pas.
Donc, et qu'est-ce que vous entendez par là?
Non, la persuasion, ça c'est justement c'est cet aspect politique. Hein? Donc, le même jour... Il n'a pas dit que l'aspect politique est écarté, parce qu'il a quand même dit que nous allons continuer à le persuader. Hein? C'est le même jour. Donc, je crois qu'il ne faut pas prendre un seul mot tiré dans un discours ou dans une conférence de presse où on a parlé de plusieurs choses et on s'arrête là, je crois. Et pour nous, les Congolais aussi, l'argument des consommations intérieures n'est pas un argument anodin. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent ces phénomènes-là dans leur chair. Par exemple, les gens qui parlent de violations dont ils sont l'objet. Et donc, lorsque vous êtes un chef de l'État, vous parlez de ces sujets qui concernent des citoyens congolais dans leur propre corps, dans leur propre chair. Je crois que parfois, vous devez aussi, par respect pour ces groupes-là, n'est-ce pas, dire quand même quelque chose qui puisse les consoler.
Professeur Bob, excusez-moi, est-ce que vous voulez dire par là que le chef de l'État a utilisé un langage propre à la consommation locale pour les Congolais et à la tribune des Nations Unies, il a utilisé un langage propre à la consommation internationale? Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire?
Non, mais c'est normal aussi, hein. Donc, un homme politique parle selon son public. Lorsque vous êtes devant vos électeurs, vous ne parlez pas de la même manière. Moi, je suis professeur quand je suis au cours. Je ne parlerai pas de la même manière que je parlerai devant, par exemple, mes électeurs quand je suis candidat. Donc, aux Nations Unies, les chefs de l'État ne cherchent pas à être élus là-bas. Et ils parlent à l'humanité, au monde entier. Et la civilisation, aujourd'hui, c'est aussi privilégier l'aspect politique et diplomatique. Hein, ils ne seraient pas là aux Nations Unies en train de parler de la guerre, etc. Je crois que ça serait un non-sens. Et n'oubliez pas qu'il avait déjà remercié l'ONU pour les efforts que l'ONU avait fait ici dans notre pays. Donc il serait en contradiction dans ce même discours devant les mêmes gens qui les remerciaient, etc.
Professeur Jacques Joly, je me tourne vers vous. À entendre le chef de l'État à la tribune des Nations Unies, est-ce qu'on peut dire que maintenant il est possible de négocier avec Laurent Kunda? Laurent Kunda est aujourd'hui fréquentable puisque le président de la République dit qu'il faut privilégier l'approche politique et diplomatique pour régler les problèmes résiduels d'insécurité en Nord Kivu.
Je crois qu'il ne s'agit pas de question d'être fréquentable ou non.
De négocier. Est-ce qu'il est maintenant possible de négocier
avec Kunda? Il y a une situation au Nord Kivu, dans le site Kivu. Un permis de tour, on essaie de trouver des solutions avec le programme de démobilisation et autres. Si on reste dans l'état du Nord Kivu, Laurent Kunda représente aujourd'hui, sur le fait, donc je suis pas la réalité là, Laurent Kunda représente aujourd'hui une force de plus ou moins 5000 hommes, 6000 hommes, c'est même pas plus, appuyée par un certain nombre de pays voisins. Il a une armée ou de troupes qui sont apparemment mieux aguerries et ils ont, n'est-ce pas, une base arrière qui n'est pas très longue. On a eu à avoir des confrontations à plusieurs reprises, quoi, deux, trois confrontations, et très rapidement, nos troupes sont très mises en difficulté, parce que je crois qu'il y a la dernière fois, nous étions, les troupes de Laurent Kunda étaient à 25 km de Sake, et c'était les troupes de la MONUC, n'est-ce pas, qui ont dû intervenir pour, n'est-ce pas, se mettre entre les deux forces. Et même quand on écoute les chefs de l'État, il dit, quant au groupe armé étranger, l'appui des Nations Unies est nécessaire en vue de leur désarmement volontaire. Donc, ce qui fait que face à la fragilité, je dirais l'absence, n'est-ce pas, d'une capacité militaire réelle, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ceci étant, il faut donc faire prévaloir les arguments politiques. En écoutant Kunda, même si je n'aime pas, je dois vous avouer que je n'aime pas trop souvent je n'aime pas beaucoup l'écouter. Il dit, il a donné ses arguments. Il dit que voilà, il est là pour l'FDLR qui doit partir. L'FDLR, ce n'est pas Kunda qui devait faire partie, c'est notre armée qui devait faire partie. Donc notre armée n'est pas capable de faire partie de l'FDLR qui contre pratiquement l'ensemble du réseau du Nord Kivu. Donc si je pouvais pas trop me perdre, je dis que on ne peut pas exclure, on ne peut ne pas prendre l'option politique et négocier. D'autant plus que nous n'avons pas aujourd'hui la capacité militaire nécessaire pour faire évoluer la position de Kunda. Donc il faut faire usage des moyens politiques et des moyens diplomatiques auprès de gens qui appuient Kunda ou aborder les problèmes que Kunda semble plus ou moins poser, notamment le problème de cette table ronde qui pose des discussions entre les ethnies au Kivu. Donc, il faut faire avec le moyen qu'on a. Tout est donc question de moyens, et aujourd'hui, nous devons prendre les moyens politiques et diplomatiques.
Jean-Charles Coteau, vous êtes du PPRD, et je rappelle que vous êtes deuxième vice-président de la Commission Relations Extérieures à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous partagez le point de vue du professeur Jacques Joly?
Merci. J'ai suivi avec un intérêt particulier l'intervention du professeur. Mais je dois vous avouer une chose, monsieur le journaliste. Je vous parle en connaissance des causes parce que je suis commissaire de zone de Rutshuru. Donc, j'ai administré ce coin pendant au moins un an et demi. Et par après, je suis parti à Beni, donc je connais le coin. Ici, pour revenir aux arguments qui ont été avancés par mon prédécesseur, je crois qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort de dire que Kunda nécessairement doit partir. Et que le fait de dire que c'est lui qui doit faire partir des groupes dont il prétend des forces négatives qui résideraient dans notre pays, je trouve que c'est une adéquation de l'optimisation.
Est-ce qu'il faut négocier avec Kunda aujourd'hui? Est-ce qu'il faut bien l'enchir en l'intégrant dans les FRD?
C'est là où je suis en train d'arriver. Parce que les gens étaient prêts à malmener le discours de chef de l'État. Quand vous réalisez l'adresse du chef de l'État à des Nations Unies, nulle part où le chef de l'État prononcé qui va négocier avec Kunda.
Mais écoute, nous avons devant nous le discours du chef de l'État.
Il dira que si.
Tout en privilégiant l'approche politique et diplomatique,
nous avons groupes armés étrangers. L'appui des Nations Unies est nécessaire pour leur désarmement volontaire ou, au besoin, forcé, leur rapatriement ou leur réintégration.
Mais un Kunda ne fait pas partie, les troupes d'un Kunda ne font pas partie des groupes d'armées étrangers, mais nationaux, locaux.
Ouais, non, ça c'est vrai. C'est-à-dire que Kunda, vous le savez très bien, c'est un homme qui a déserté. Comme lui-même l'a dit que le problème est assez complexe. Nous savons d'où vient cette affaire. Mais au niveau du chef de l'État aujourd'hui, je crois que le chef de l'État, ce qu'il a annoncé au niveau de la tribune des Nations Unies, comme l'a dit le professeur qui est à ma gauche, en remerciant sur le plan bilatéral et multilatéral les institutions internationales, et en prenant en compte même la Nations Unies, parce que pour dire, il a même reconnu, il a renvoyé même l'ascenseur, pour dire nous avons beaucoup reçu. Et cette fois-ci, je crois que le Congo doit contribuer également en envoyant les troupes d'élite à travers les autres pays, les autres continents, pour le maintien de la paix. Ça, il faut reconnaître ça d'abord du chef de l'État qui est très positif. Et d'aider, quand le chef d'État responsabilise aujourd'hui l'ONU qui, le problème du Congo, se retrouve dans ses branches aussi, dans ses tâches, ok, pour le maintien de la paix. Je crois qu'aujourd'hui, c'est là où je ne rejoins pas mon confrère pour dire la faiblesse de notre armée. Parce que vous savez, la force d'une armée, c'est quoi? D'abord, le nombre. Je crois que le boom démographique enveloppe l'armée congolaise aujourd'hui. Vous pouvez voir, vous pouvez tirer. À un certain moment, je crois que les armes peuvent même s'épuiser. Et quand le monde avance, il finira par pouvoir reculer.
Et qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Pardon?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais moi, je crois que le chef de l'État a annoncé un message clair. Pour que demain, qu'on ne puisse pas le retourner en lui prêtant d'autres intentions. Le chef de l'État était clair pour dire que cette fois-ci, aussitôt qu'il sera de retour, voilà son schéma. Il a donné des priorités. Et moi, je pense que c'était un avertissement. Moi, je demande toujours à notre frère Kunda, comme je vous disais, que j'ai eu à administrer ce territoire. Aujourd'hui, quand vous regardez l'RCD, même l'MLC, je crois qu'on a connu pratiquement le même problème. Et avec la force et la diplomatie que le chef de l'État a amorcée, je crois qu'aujourd'hui, nous partageons le même fait avec nos frères. Et je suis presque certain que demain ou après-demain, ce sera chose faite. Faisons confiance au chef de l'État, et le chef de l'État ne devrait pas aller là-bas pour quelqu'un qui doit menacer publiquement quelqu'un, mais nous savons très bien le peu de militaires que possède aujourd'hui M. Kunda, dont j'ai difficile à prononcer son nom. C'est un frère congolais, tout ce qu'on demande est que les choses soient normales et qu'on puisse revenir à la paix.
Merci. Nous avons également dans ce studio le professeur Jean-Pierre Mbobois, qui est professeur de sciences politiques aux facultés catholiques de Kinshasa, qui intervient comme analyste politique. Professeur, est-ce que nous pouvons dire, qu'en écoutant, en suivant le discours du chef de l'État, est-ce qu'il vous semble maintenant possible que le gouvernement congolais entrevoie des négociations avec Laurent Kunda pour mettre fin à cette insécurité résiduelle?
Vous savez que la politique a toujours été, disons, en fait, on fait la guerre lorsque la politique échoue. L'idéal dans les États modernes, c'est qu'on fasse la politique et c'est la politique qui prime sur le militaire. C'est lorsqu'on n'arrive vraiment pas à s'entendre qu'on fait intervenir le militaire. Lorsque les conditions le permettent, l'idéal pour des hommes civilisés aujourd'hui, c'est qu'ils se parlent, qu'ils dialoguent. Et donc, l'option, l'approche politique, c'est pas parce qu'il est dit qu'on doit commencer à s'agiter autour de cela. Hein. Un homme politique ne peut que croire dans le dialogue, dans l'approche politique. Hein. Donc, personnellement, je pense que dans les problèmes de l'Est, ici, en cause à la radio Capi, je suis venu ici il y a quelques mois, je crois que c'était toujours le problème de l'Est, et à l'époque, je crois que nous avions parlé toujours aussi de ces questions, qu'il fallait parler, qu'il fallait dialoguer, qu'il fallait aussi impliquer le pays voisin. Et je crois que réellement, pour nous les Congolais, ce n'est pas quelque chose à éviter. Mais ce n'est pas parce qu'on parle de l'approche politique et diplomatique qu'on ne va pas non plus préparer les militaires, etc. Un État doit aussi avoir une armée. Hein, donc cela ne signifie pas, lorsqu'on croit dans l'approche politique, on va maintenant fermer les casernes, on va abandonner le côté militaire. Hein. Donc parfois c'est les malentendus ou disons une interprétation qui confine ou qui enferme, n'est-ce pas, un mot ou quoi dans un contexte qui est peut-être inapproprié.
Voilà, donc avant que l'honorable Chadari Ramazani de l'ANP, secrétaire national chargé des questions électorales au sein du PPRD, puisse entrer et remplacer l'honorable Jean-Charles Okoto. Honorable Jean-Charles Okoto, brièvement, je voudrais vous poser une question. On a entendu le chef de l'État dénoncer les exactions commises par des groupes armés aussi bien congolais qu'étrangers dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et pourtant, il n'a pas dénoncé les exactions commises par et la police nationale et les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de rapports qui citent toutes ces exactions. Il y a par exemple le rapport de la Division Droits de l'Homme des Nations Unies de juillet 2007 qui cite des exactions commises, beaucoup d'exactions commises par les FARDC et la police nationale. Mais on n'a pas entendu les chefs de l'État dénoncer ces exactions.
Merci, monsieur le journaliste. Moi, je crois que s'il fallait absolument que le chef de l'État fasse allusion à la tribu des Nations Unies, alors là, peut-être qu'on n'a pas la même lecture de le comportement qu'on doit afficher quand on est aux Nations Unies.
Non, c'est-à-dire la part de responsabilité du gouvernement congolais pour mettre fin aussi aux exactions.
Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Mais je crois que le chef de l'État, vous l'avez plusieurs fois suivi ici. Même sa conférence de presse, avant de se rendre à la tribu des Nations Unies. Je crois que le chef de l'État, même le chef d'État-major général et le ministre de la Défense, d'ailleurs, tous se reconnaissent. Et ça passe même dans les différentes chaînes de télévision qu'enveloppe notre pays aujourd'hui, à travers même vos radios respectives. Mais je crois que ce sont des choses qu'on a toujours dit et que ça se répète toujours. Mais je crois que le chef de l'État, se trouvant à la tribu des Nations Unies, ne pouvait que faire allusion à tout ce qui est au niveau exogène, c'est-à-dire les gens qui s'aiment et qui veulent à tout prix créer des problèmes au sein de notre pays. Et parce que tout ce qui concerne le gouvernement, le chef de l'État et le chef de l'État, la République démocratique du Congo, il prend soin de pouvoir corriger certaines erreurs, certaines erreurs sur le plan endogène. Mais ce que je voulais ici, monsieur le journaliste, j'avais cru que le problème le plus important, c'est tout au niveau du développement. C'est dommage qu'on a eu à avoir une attention très particulière pour le problème de l'Est. Quand bien même, je sais que c'est un problème de sécurité, le peuple congolais a déjà perdu plus de 4 millions de âmes, et qu'aujourd'hui, comme l'a dit le professeur, le souci du gouvernement congolais aujourd'hui, c'est de pouvoir recréer ce qu'on appelle l'arme la plus efficace dans la diplomatie, qui est le dialogue.
Merci, je crois que
prochainement, il serait nettement mieux que nous puissions desséquer ou déshabiller plutôt le discours du chef de l'État, surtout là où le peuple congolais l'attend au tournant, c'est-à-dire au niveau tout ce qui concerne le développement.
Merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir participé à cette émission. Évoquant la question de la réforme des Nations Unies, le président Kabila a déclaré que l'élargissement de la représentation au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies était une exigence démocratique nécessaire pour le bon fonctionnement de l'ONU et que l'Afrique devrait être représentée dans cette organisation, dans cet organe. Le président de la République, nous le suivons.
La République démocratique du Congo salue-t-elle le processus de la réforme du système des Nations Unies qui a le mérite de rechercher une plus grande cohérence et une efficacité accrue de son action. Elle tient à souligner que l'élargissement de la représentation au sein du Conseil de sécurité est une exigence démocratique nécessaire au fonctionnement harmonieux de l'ONU et que le continent africain devrait être représenté à titre permanent au sein de cet organe. Elle attire par ailleurs la meilleure attention de cette Assemblée sur le fait que la réforme du Conseil de sécurité ne doit pas occulter la nécessité de revisiter les autres organes de l'organisation. Leurs modes de fonctionnement doivent être le plus efficace possible et leurs interactions futures mieux définies.
Voilà, nous accueillons également dans ce studio Chadari Ramazani, qui est député national ANP, secrétaire national chargé des questions électorales au sein du PPRD, le parti présidentiel. En attendant que nous puissions vous poser une question, je me tourne vers vous, professeur Jean Joly. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, vous êtes sénateur MLC, vice-président de la commission de défense et sécurité du Sénat. Pourquoi le président de la République a parlé de cette question? Est-ce qu'il y a un intérêt particulier pour la République démocratique du Congo en ce qui concerne la réforme du Conseil de sécurité?
Je crois que c'est ce que nous avons dit au départ. Lorsqu'on va à la tribune des Nations Unies, on va parler de son pays, de ses problèmes, on ne peut s'empêcher non plus, n'est-ce pas, de prendre parole pour aborder les grandes questions internationales. Et parmi les grandes questions internationales de l'heure, il y a cette problématique de la réforme du Conseil de sécurité, enfin du Conseil de l'ensemble de l'architecture des Nations Unies. Cette question a fait l'objet de plusieurs sessions, la 60e, aujourd'hui nous sommes à la 62e. Il est question, comme a dit le chef de l'État, de renforcer le caractère démocratique de cette structure qui est une structure post-deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire une structure de la guerre froide, pour l'adapter au contexte international. Mais entre la volonté, notamment, de changer la structure et le fonctionnement de du Conseil de sécurité, en acceptant notamment de nouveaux membres qui seraient par exemple le Japon, l'Allemagne et d'autres, et la...
Pourquoi pas aussi un pays africain comme membre permanent du Conseil de sécurité?
Oui, les États africains réclament d'avoir deux sièges permanents, mais lorsqu'on met les États africains eux-mêmes pour discuter quels sont les deux membres qui devront aller, mais ils ne s'entendent pas. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne réclame peut-être pas un siège parce que c'est un État qui est devenu beaucoup plus objet que sujet du droit international. Donc, il y a eu des consensus des Unis, on en a discuté, mais on ne s'attend pas. Le Nigeria veut y être, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Sénégal, tout le monde veut aller, même le Bénin. Donc, finalement, personne aujourd'hui n'a intérêt, puisque la structure des Nations Unies traduit en fait un rapport des forces internationales. Et aujourd'hui, il y a une hyperpuissance, les États-Unis, qui n'a aucun intérêt que d'autres viennent perturber la démocratie de grand qui se passe au Conseil de sécurité. Et les autres pays africains, on en parle, et les chefs de l'État, c'est peut-être par nécessité des styles, devraient aussi dire ce que le Congo passe aussi.
Voilà, donc nous accueillons dans ce studio Ramazani Shadari. Qu'est-ce que le Congo, la République démocratique du Congo, peut tirer comme dividende de la réforme du Conseil de sécurité? Par exemple, si un pays ou deux pays africains devenaient membres du Conseil de sécurité des Nations Unies?
Oui. D'abord, je pensais que nous allions intervenir depuis le début de l'émission, mais je suis venu participer à la deuxième partie. Je crois que le team d'idées, comme avec mes collègues, peut me faire défaut. Vous parlez de la réforme du Conseil de sécurité. Et si l'Afrique présente maintenant deux candidats à ce Conseil, bien trois, les dividendes que notre pays peut tirer, c'est que ces pays peuvent également parler en faveur de la République démocratique du Congo. Lorsqu'il y a des questions fondamentales qui intéressent l'Afrique, des questions fondamentales qui intéressent la RDC, ces pays africains qui vivent en Afrique et ses représentants qui vont en Afrique peuvent donner des avis considérables pour, n'est-ce pas, aider notre pays à avancer de l'avant, notamment des questions actuelles. Lorsqu'on parle des condamnatoires, j'ai suivi quand j'étais dehors, vous avez suffisamment évoqué les cas des condamnatoires, mais s'il y avait, n'est-ce pas, des pays africains qui participaient à ce Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, je crois qu'ils allaient dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe en RDC? Qui est condamnatoire véritablement?
Vous pensez que maintenant, le cas de la RDC n'est pas bien défendu, d'autant plus qu'il n'y a pas de pays membres permanents?
C'est notamment ça, africains. Parce qu'on ne sait pas dire qui est condamnatoire. Quelles sont ses revendications? Condamnatoire revendique quoi au Congo? Où est-ce que condamnatoire a été élu? Condamnatoire a une armée qui lui donne, comme individu, général, soit qui lui donne des munitions, qui lui donne les armes, qui lui donne, n'est-ce pas, des moyens de se défendre, qui lui donne des médicaments. Tout ça sont des questions fondamentales qui devaient être connues au niveau des Nations Unies. Et lorsqu'on dit on doit négocier, c'est comme si on craignait que Kunda peut arriver à Kinshasa et prendre le pouvoir. Il y parviendrait avec quels moyens? Voilà. Donc, les Nations Unies ne sont pas suffisamment édifiées parce qu'il y a insuffisance des gens qui représentent l'Afrique à son sein. Donc, je crois que s'il y a une réforme, ça pourrait privilégier d'une manière ou d'une autre la République démocratique du Congo et l'ONU, à ce moment-là, serait très crédible. Et le président appelle la crédibilité, n'est-ce pas, des Nations Unies. Vous savez, les Nations Unies n'ont pas seulement intervenu au Congo avec la MONUC. Cela a commencé depuis 1960 avec l'ONUC. Et le premier président et le premier ministre de ce pays
est mort lorsque l'ONU était ici. Même le secrétaire général Dag Hammarskjöld est mort alors que l'ONU était ici. Et aujourd'hui, nous voyons l'intervention de la MONUC. Et c'est à l'est du pays où les troupes de la MONUC sont les plus nombreuses. Et bien, qu'est-ce qui se passe à l'est? Il y a d'autres, une opinion qui dit que la MONUC est là pour des points de presse contre les morts.
Donc, vous voulez dire que si les pays africains sont représentés, le cas de la République démocratique du Congo serait peut-être mieux défendu. Est-ce que vous partagez ce même point de vue, professeur Jean-Pierre Mbeuvoir?
Bon. Vous savez, il y a beaucoup d'arguments qui plaident en faveur de la représentation continentale dans une organisation qui se veut mondiale, internationale. Et donc, c'est tout à fait normal que les Africains aussi souhaitent voir un État membre, n'est-ce pas, de ce continent, être là de manière permanente, plutôt que de manière à changer comme on le fait régulièrement. Donc, c'est tout à fait honorable, parce que si on peut réclamer d'être au Conseil de sécurité parce qu'on contribue beaucoup, on apporte beaucoup d'argent, comme le cas de l'Allemagne, du Japon. On peut aussi imaginer que ceux qui demandent que tous les continents y soient présents ou que toutes les races y soient présentes de manière permanente, n'est-ce pas, on peut aussi comprendre les réclamations. Et on peut aussi estimer qu'on peut mieux se comprendre, qu'ils sont mieux placés pour comprendre, comme l'honorable Ramazan vient de le dire. C'est un argument aussi, mais on ne sait pas si ça pourrait être effectivement le cas ou pas, parce que parfois il y a d'autres enjeux qui font que, même en espérant que ces facteurs jouent, ça joue plutôt peut-être en défaveur. On ne sait jamais.
Voilà. Nous avons également, le chef de l'État a attiré l'attention sur les menaces liées au changement climatique. Il a également confirmé l'engagement de la RDC dans le souci de l'éradication de ce fléau. On l'écoute une fois de plus.
Au regard de nouvelles menaces et de nouveaux défis qui se profilent à l'horizon, j'ai rappelé nos engagements respectifs en tant qu'État membre, tels que contenus dans la Charte des Nations Unies, et réaffirmé l'attachement de la République démocratique du Congo, ses textes fondateurs de notre organisation. J'ai aussi attiré l'attention de cette auguste assemblée sur divers fléaux qui caractérisent le contexte international et les menaces liées au changement climatique, soulignant ainsi la nécessité d'unir nos efforts si nous voulons permettre à nos peuples de vivre dans un monde où règnent les meilleures conditions de vie, le progrès social, la paix et la sécurité internationale. Notre volonté politique d'éradiquer ce fléau mieux, notre action déterminée et concertée pour y mettre fin constitue la preuve de l'authenticité de notre engagement à améliorer l'état du monde.
Professeur Jacques Njoli, en évoquant les changements climatiques, finalement, que demande le chef de l'État congolais à la communauté internationale? Est-ce compensation financière du fait que les forêts congolaises jouent quand même un rôle très important pour freiner le réchauffement climatique avancé de la planète?
Je crois que, vous savez, comme je l'ai dit au début, les discours dans les instances des Nations Unies ressemblent parfois à des grands messes où tout le monde répète une série de choses. C'est le cas notamment lorsque les chefs d'État reprennent ces discours sur l'environnement. Effectivement, la question du développement durable, c'est une question qui revient en France. Même il y a un méga ministère de développement durable. Mais les problèmes de développement, les problèmes de l'écologie politique ou de l'environnement qui se posent dans les contextes qui est le nôtre, d'une extrême pauvreté, d'une misère incommensurable, ben, ce sont des problèmes qui ne sont pas de la même nature que les États hyper développés qui, eux, n'est-ce pas, ont des problèmes, n'est-ce pas, de réchauffement de la planète. Bien sûr, nous sommes tous dans un même continent et ce qui s'est fait, la pollution qui s'est faite aux États-Unis ou en France, ben, nous subissons plus ou moins les conséquences. Alors, il y a toute une série de thèses et de théories qui se développent. On parle du pollueur payant. Et, par exemple, le Congo, comme a dit le chef de l'État, est aujourd'hui deuxième poumon mondial après l'Amazonie. Mais, vous savez, le Brésil n'attend pas qu'on vienne lui donner l'argent. Le Brésil, c'est un pays qui est en train d'avancer. Donc, il faut prendre à bras le corps ses propres problèmes. il n'y a pas de patrimoine mondial de l'environnement. Nous avons notre patrimoine national qui a une vocation mondiale. Il nous appartient à nous d'utiliser nos forêts rationnellement. Et si les autres viennent, parce que toutes ces questions de payer, mais comment on va calculer le nombre de COD que nous avons donné à l'humanité pour qu'on paye, qu'on nous donne l'argent. Donc, moi, j'aime bien qu'on développe ce genre de théories, mais il faut éviter les langues de bois, les discours récurrents, des propos qui viennent chaque jour pour étayer les discours. Nous avons des problèmes de développement, de pauvreté, et nous avons nos questions d'environnement, sans pour autant nier les questions d'environnement d'intérêt international, les nouvelles questions de l'écologie, mais je crois que bon, c'est bien d'en faire part comme figure destinée encore une fois de plus.
Merci, professeur Anjoli. Professeur Jean-Pierre Mbouéba, j'ai suivi, je pense, la semaine passée, un politicien de l'opposition qui s'étonnait du fait qu'au lieu de se prononcer sur les problèmes sérieux que connaît le pays, le chef de l'État est allé parler d'autres choses, selon lui. Est-ce que vous pensez que ces choses-là dont parlent ces politiciens de l'opposition concernent également le problème du réchauffement climatique qui n'intéresse peut-être pas autant les Congolais?
Non, mais les Congolais sont intéressés, sauf que les Congolais ne sont pas informés qu'il y a beaucoup de tractations, qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui pensent que le Congo devrait cesser d'exploiter la forêt, qui pensent que le Congo devrait disponibiliser son fleuve pour que l'eau du Congo aille partout. Et donc, un Congolais qui suit, n'est-ce pas, l'évolution de ces choses-là dans le monde, devrait être conscient aussi de cela. Ce n'est pas parce que nous n'en parlons pas que ça n'existe pas. Hein? Donc, au niveau international, il y a beaucoup de milieux qui pensent cela. Vous savez que c'est depuis Rio, n'est-ce pas, en 1992, qu'on a pensé déjà que certains pays devraient renoncer à se développer en tirant de leurs ressources naturelles pour pouvoir préserver l'environnement et que les pays développés, les pays industrialisés payeraient cela.
Supporteraient. Vous pensez que ce n'est pas un enjeu pour le Congo?
C'est un enjeu pour nous. Ça signifie que nous devons donner notre position parce que les États, surtout les pays industrialisés, ils pensent que les pays d'Afrique doivent renoncer à leur développement, à trouver solution à leur situation pour que on préserve l'environnement à partir de nos forêts, à partir de notre infrastructure. Donc c'est quand même un problème. Évidemment, il donne un point de vue. Un pays comme le Congo qui a, je crois, 50% de la forêt africaine, peut quand même dire que voilà, un mot sur ce qu'il pense de l'environnement, c'est pas un détail.
Voilà, rapidement, Ramazani Chadari, un mot avant que on passe peut-être quelques. Vous allez répondre à cette question sur le réchauffement climatique après, mais d'abord quelques opinions et interrogations des auditeurs. Pierre Shindano Koko de Bukavu dans le sud Kivu trouve que l'adresse du chef de l'État congolais à la tribune des Nations Unies à New York est responsable et optimiste, car il a privilégié une voie pacifique pour résoudre le conflit de guerre à l'est du pays. Mastilo de Lubero dans le nord, qui vous pense que le chef de l'État, dans son discours, semblait minimiser l'affaire Nkunda, tout en rassurant l'opinion internationale qui trouvera seule la solution au lieu de demander de l'aide aux Nations Unies. Enfin, Richard Bitoka de Kalemie dans le Katanga trouve que le discours du chef de l'État ne peut rien apporter, tant sur le plan politique que sécuritaire, car il n'y a pas d'entente entre les Congolais eux-mêmes. Je vous prie d'abord de réagir par rapport à la dernière, à l'opinion de Richard Bitoka, qui pense que ce discours n'apportera absolument rien parce que les Congolais ne s'entendent d'abord pas entre eux.
Non, je ne pense pas. Je crois que c'est un discours responsable. Un discours responsable, comme le premier intervenant l'a dit. Et le chef de l'État a été constant. Le chef de l'État a parlé de l'ONU. Le chef de l'État a parlé des problèmes de son pays, la RDC, notamment la sécurité à l'Est. Il a présenté la situation et il a fait des propositions concrètes. Et le chef de l'État, je crois que ce qu'on peut attendre de son discours, c'est que le gouvernement, sur le plan sécuritaire, doit se montrer maintenant actif.
Vous pensez que ce discours, après ce discours, il y aura des changements?
Il y aura.
Et lesquels?
Il y aura des changements parce que il est maintenant question que le chef de l'État mette en œuvre tout ce qui a été prévu et tout ce qu'il a dit. Vous avez vu, il a été à Goma avant d'aller aux États-Unis. Et il a consulté, n'est-ce pas, l'état-major.
Il a consulté, n'est-ce pas, la population, les élus du Nord Kivu. Et je crois, quand il a été aux Nations Unies, c'était une façon de leur dire, de les sensibiliser. Si c'est possible, s'il y a encore des gens qui sont des condamnatoires, qu'ils puissent se retirer. C'est lorsqu'il a parlé, n'est-ce pas, de la négociation.
Merci beaucoup.
Ou il a parlé de la politique ou de la diplomatie. Mais la question fondamentale, la réponse, c'est utiliser notre armée.
Merci.
Et
merci.
Bouter hors, n'est-ce pas, monsieur.
Merci beaucoup. Nadine Nofoula. Voilà, nous avons terminé, s'il vous plaît. Nadine Koul était à la réalisation, Colin Mounke ou à la mise en onde, et Denis Diboko a préparé cette émission. À eux et à nos invités, je dis merci et bonne soirée sur Radio Capi.